Bonjour Maxime, bonjour Yann-Jeu. Mais je suis sûr que c'est un défi de rester éveillé.
Vous m'écoutez.
Vous avez toutes mes sympathies. Et je vous remercie d'avance pour votre attention. Et pour ce sujet qui m'a été octroyé, on va dire, qui m'a été donné, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais je trouve que c'est un sujet d'une grande importance et j'espère que vous pourrez, avec moi, voir mieux, après ce week-end ensemble, l'importance de ce sujet qui est rarement discuté et pour les chrétiens. On parle assez rarement. Donc, avant de commencer, je vais déjà distribuer là et ici par ici. Je vais faire passer. Ça, c'est pas pour ce soir. Donc, vous pouvez le garder pour plus tard. Quand vous l'ouvrez, vous voyez, il y a une introduction donc à ce sujet. Des choses que je vais peut-être dire même ce soir. Et puis vous avez jour 1, jour 2 et jour 3. Donc jour 1 sera demain matin. Et il y a une lecture proposée de Romains 12, 1 à 2. Et puis Philippiens 1 à 10 et les versets 27 à 30. Avec quelques questions et puis quelques requêtes de prière. Donc, j'avais donné des éléments de cette étude à René qui avait préparé d'abord un bouquin de 5 jours pour des femmes de l'église de Saint-Denis. Et c'est pour cela, au jour 2, vous verrez, ça dit la femme chrétienne. Mais bon, j'ai oublié de changer. Et c'est pour les hommes aussi. J'avais rechangé certaines choses pour ce week-end, mais je n'avais pas tout vu. Donc, jour 1 sera pour demain. Jour 2 sera pour samedi. Et puis, jour 3 sera pour dimanche matin. J'espère que vous pouvez le terminer chez vous. Mais c'est un compliment. Aux études que nous allons faire ensemble. Voilà, c'est pas pour prendre des notes pour ce soir. Le titre que nous avons donné à ces 4 séances, c'est « Faire le tri dans ma vie ». Faire le tri sélectif dans ma vie. Quelques minutes avant de venir, j'ai lu dans les infos qu'il y a, j'oublie combien de millions d'euros gaspillés chaque année en France parce que le tri n'est pas bien fait. Et les Français ne savent pas comment trier leurs déchets. Mais on nous avertit des dangers de presque tout. Même l'autre jour, j'ai lu les dangers des chewing-gums. Il y a un site internet dédié à sauver la planète qui dit que voici. Il faut également savoir qu'un chewing-gum met 5 à 6 ans à se dégrader dans la nature. Pendant ce temps, il met en danger l'environnement puisqu'il peut contenir jusqu'à 100 produits chimiques toxiques qui se répandent dans les sols et dans l'eau, pouvant intoxiquer ou tuer la faune et la flore locale à plus ou moins long terme. Vous voyez, il y a un danger même dans le chewing-gum. Et on veut que les gens prennent conscience qu'il ne faut pas jeter les choses n'importe où, même jusqu'au petit chewing-gum. Mais qu'est-ce qu'on fait dans la vie chrétienne? Est-ce qu'on sait faire le même sorte de tri dans notre vie? Est-ce qu'on sait distinguer entre ceux qui peuvent produire des toxiques, ceux qui mettent en danger notre environnement, ce qui peut à long terme avoir un impact négatif sur nous, sur d'autres. Est-ce qu'on sait trier les choses dans notre vie? C'est pour ça le titre ici, faire le tri dans ma vie, la pratique du discernement biblique dans la vie chrétienne. Est-ce qu'on sait discerner? Est-ce qu'on sait ce que c'est de discerner? On va discuter ça ensemble. Et après, est-ce qu'on sait comment discerner, faire des choix, prendre des décisions dans ma vie pour plaire à Dieu? Alors pourquoi, ça c'est ma première question, pourquoi faire le tri de ma vie? Et il y a beaucoup de réponses qu'on pourrait donner. On veut tout faire, même jusqu'au manger et boire, la Bible dit. Pourquoi? Pour quelle motivation? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez toute autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une bonne motivation. Mais je veux vous montrer une réponse qui sera peut-être surprenante pour vous. Elle vient de la bouche de Jésus lui-même. Et elle dépeint une belle image de ce qui devrait être l'ensemble de toute notre vie, c'est-à-dire l'ensemble de tous nos choix. Et ça se trouve dans Matthieu, donc c'est le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 3 et verset 13. Matthieu chapitre 3 et verset 13 nous raconte l'histoire de Jésus qui vient pour se faire baptiser. Et il dit, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Matthieu 3, verset 14. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Et puis le verset 15. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Si vous avez la parole vivante, il dit, il est bon que nous accomplissions tout ce qui est juste. Mais le mot là, c'est le mot convenable. C'est convenable. C'est un mot qui veut dire ce qui convient. On le trouve 7 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire, ça parle de ce qui est approprié, ce qui convient à quelque chose, ce qui est digne de quelque chose, ce qui est bienséant, ce qui est bien adapté à quelque chose, ce qui est estimable. J'aime bien cette définition. Où toutes les parties harmonisent. C'est ça l'idée ici. Toutes les parties harmonisent. Il n'y a rien qui cloche ou qui résonne faux. Toutes les parties harmonisent. La racine de ce mot, prépo, qui est traduit ici dans convenable, c'est utilisé pour des mots tels que beauté, respectueuse, magnifique. Vous voyez, il faut avoir un peu ça dans la tête. Il dit que c'est ça qui convient, donc c'est ça qui crée la beauté, c'est ça qui sera magnifique ou respectueuse. Donc ça, c'est un peu la mentalité de Jésus. Il commence son ministère, et tout au début de son ministère, il va entamer dans son ministère public, et on voit que Jésus, non, mais c'est pas comme un ordinateur qui réagit à des commandes. On tape une commande et puis l'ordinateur fait ce qu'on lui demande. Il n'agit même pas en tant qu'un esclave qui obéit indifféremment à son maître. On me dit de le faire, donc je le fais. Je n'ai pas de choix. Il le faisait parce que c'était convenable, parce que c'était bienséant à la justice. Et c'est ce qu'il cherchait dans toute sa vie, c'est que sa vie soit convenable à la justice. Bienséant à la justice. On retrouve ce mot, vous n'avez pas besoin de le chercher, je vais le mettre ici, en Hébreux 2 et verset 10, où en parlant du ministère de Jésus, de la vie de Jésus, L'Épître dit, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et était élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Par les souffrances de Jésus, et il dit que ces souffrances convenaient à sa vie. On le retrouve plus tard dans le même Épître, Hébreux 7, 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc ce qu'on voit dans cette image, c'est qu'on a un Dieu où toutes les parties harmonisent. Cette recherche de ce qui convient à la personne de Dieu, non pas à l'homme, a nécessité, on voit là, le baptême de Jésus, ça c'est en Matthieu 3, a nécessité donc la souffrance de Jésus-Christ en Hébreux 2, et régit même tous les détails de l'Évangile en Hébreux 7, 26. Donc pourquoi Dieu fait ce qu'il veut? Parce que c'est une chose qui convient à ce que Dieu est. Dieu ne peut pas agir en désaccord avec sa propre nature. Donc il agit d'une façon bien séante. Mais on voit que ce n'est pas que Dieu qui est sans aucune contradiction. Trouvez avec moi le livre, la lettre à Tite, et le chapitre 2. Et nous allons retrouver ce même mot, verset 1 et verset 3. On regarde ce mot convenable ou bien séant. Tite, donc si vous trouvez, il y a 5 T qui sont ensemble. Il y en a un et deux Thessaloniciens, un et deux Timothée, et puis Tite, c'est dans le Nouveau Testament, vers la fin. Et Tite, chapitre 2 et verset 1. Quelqu'un peut le lire ? C'est pas grave, vas-y, dis-le.
Mais toi, dis ce qui est en accord avec l'enseignement juste.
Ok, c'est le même mot grec, hein? Mais ici c'est le même qui est traduit dans en accord. Okay? Mais c'est la même idée. C'est en accord qui a une autre traduction pour ce mot.
Conforme.
Ok, qui est conforme à la sainte doctrine. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre traduction? Mais c'est ça en tout cas l'idée. C'est convenable, c'est en accord, c'est conforme à la sainte doctrine. Alors regardez juste ce premier verset. Jésus a fait certains choix car ils étaient convenables, en accord ou conformes ou en harmonie avec la justice. Ça on le voit en Matthieu 3. Paul dit à Tite d'enseigner qu'il y a des comportements qui sont convenables, conformes ou en harmonie ou en accord avec la sainte doctrine. Jésus dit, il parle de tout ce qui est juste. Ça, c'est convenable, que je me fasse baptiser. Il y a aussi une sainte doctrine, il y a des choses qui sont convenables, qui sont en accord avec ça. Alors, il parle de quoi? Quelqu'un peut lire le verset 2 et 3?
De Tite,
chapitre 2, versets 2 et 3.
Il dit que les veillards doivent être sobres, honnête, modéré, saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir un extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions.
Voilà, donc où est le mot au verset 3 ?
Convient.
Voilà, l'extérieur qui convient à la sainteté. Ici, nous retrouvons notre mot. Convenable, conforme, en harmonie avec. On dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que l'extérieur n'est pas important. Au contraire, l'extérieur, on voit ici, doit être en harmonie. Elle doit être donc, conforme, convenable avec la sainteté. Alors, pour une femme âgée, ça veut dire qu'elle doit être, comme on a lu au verset 3. Si c'est les jeunes gens, regardez le verset 6. exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Et pourquoi? Parce que ce sont des choses qui, verset 1, sont conformes à la sainte doctrine. Verset 9, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire, à toutes choses, etc., etc. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont, verset 1, conformes, en harmonie avec la sainte doctrine. Donc, qu'on soit jeune ou âgé, homme ou femme, il y a une manière dans la vie, il y a une manière convenable de vivre. Il y a une manière qui est en harmonie avec la sainte doctrine. Il y a une extérieure qui est digne de l'évangile, il y a une extérieure qui n'est pas digne, qui n'est pas en harmonie avec cette profession de foi. Vous voyez, ici, l'idéal ici, c'est que nous avons donc une justice, où nous avons une sainte doctrine, et puis nous recherchons donc une vie qui est conforme, en harmonie, tout comme Jésus lui-même a fait. Mais ce n'est pas seulement notre comportement, mais même dans nos paroles. Qui veut lire le verset derrière moi? Vous n'avez pas à lire, c'est
tout petit. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints.
Voilà, ça c'est le même mot qu'on retrouve en Matthieu 3. Vous voyez, ce qu'on cherche est une harmonie entière dans tous les domaines de notre vie. Même nos paroles doivent être bien séantes, doivent être convenables, doivent être en harmonie avec la sainte doctrine, avec ce que nous sommes en tant que des saints. Et pour cela, on ne va pas parler de la débauche. On ne va pas faire des blagues de l'impureté, de la cupidité. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont pas convenables à des saints. Ils ne vont pas, ils ne sont pas en harmonie avec ce que doit être un saint en Christ. Mais ce n'est pas seulement dans notre comportement et dans nos paroles, mais même, vous êtes prêts pour cela? Ça c'est où on trouve ce même mot encore, même dans notre tenue vestimentaire. Qui veut lire ce passage en 1 Timothée 2, 9 et 10?
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de plâtre, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient, à des femmes qui font confession de Seigneur Dieu.
Voilà. Comme, vous voyez le mot, on retrouve comme il convient, c'est traduit. Il est convenable, en harmonie, avec des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc si une femme professe d'être le disciple, la servante de Dieu, elle professe, je sers Dieu, alors il y a une façon convenable de se vêtir. Parfois il y a une femme de Dieu, et donc l'enseignement ici est adressé aux femmes, mais on peut l'appliquer aussi aux hommes. Mais elle s'habille d'une façon qui est en désaccord avec sa profession de servir Dieu. C'est possible. Sinon, il n'y aurait pas ce verset. Mais il y a une façon d'habiller qui ne serait pas en harmonie. On verrait qu'il y a une discorde là, avec sa façon de se vêtir et sa profession de vouloir servir Dieu. Donc, je vous encourage les femmes et les hommes de vous regarder dans le miroir de ce matin, et de vous demander, est-ce que je suis habillé d'une façon qui convient, qui est en harmonie, qui est digne des femmes ou des hommes qui font profession de servir Dieu. Donc vous voyez, on voit que Dieu désire que ses enfants, en tant qu'individus, dans leur comportement, ça c'est titre 2, dans leur parole, Éphésiens 5, et même dans leur tenue vestimentaire, ça c'est 1 Timothée 2, reflètent cette harmonie où toutes les parties de la vie harmonisent, hein, cette unité de vie. Et le problème, c'est que, étant pécheur, on n'est jamais parfaitement uni, n'est-ce pas? Il y a toujours des choses qui ne vont pas avec notre profession. Mais c'est le désir que nous avons. Et il n'y a pas un seul domaine dans la vie qui, où on peut pas, où on a le droit de ne pas créer une harmonie avec l'Évangile et notre profession de servir Dieu. Ça, c'est l'image donc, devant nous, cette harmonie que nous cherchons. La question est donc, comment trouver, comment déterminer ce qui est convenable? C'est une bonne question, hein? J'espère que ça nous mène un peu à cette question. Alors, comment? Imaginons que quelqu'un veut bien le faire. Imaginez que c'est vous, hein, qui veut et voulez bien le faire. Mais vous dites comment? Est-ce qu'il y a une liste quelque part? Est-ce qu'il y a peut-être un site internet? Je peux aller où ça me dit ce qu'il faut faire pour que je sois vraiment convenable dans tous les aspects de la vie, de la parole, de mes vêtements. Est-ce qu'on peut téléphoner le pasteur et dire « Je suis au magasin et il y a deux jupes devant moi et je veux savoir quelle jupe il faut choisir ?» Pour être convenable à une femme qui fait profession de servir Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est ici que je veux voir ensemble un dernier verset avec ce mot. Convenable. Je crois que nous avons vu tous les sept. Et qui va servir de pont à notre sujet principal. Et ce verset est en 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 11, pardon. Donc là, c'est après les évangiles, nous avons Actes, et puis Romains, et puis 1 Corinthiens et chapitre 11. Et le verset 13. Je veux lire le verset 13. Un Corinthiens 11, 13.
Jugez les hommes vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être
convenable? Voilà. Bon, on n'est pas là pour prêcher sur le voile et la femme à l'église, mais je veux tirer votre attention sur l'exercice ou l'activité, le travail. Déjà, on voit ce mot convenable. Hein. Ici, il est traduit convenable dans la traduction que Thierry a lue. Mais je veux aussi tirer votre attention sur l'activité, le travail, le boulot que le Saint-Esprit, par la plume de Paul, appelle. Et ce n'est non pas les pasteurs ici, et les anciens, c'est vraiment tous les croyants, tous les membres de l'Église, à faire sans exception. Et nous voyons donc dans ce verset qu'il y a un sujet, en l'occurrence c'est une femme qui prie dans l'assemblée. Il y a un objectif, que tous les détails du culte soient convenables, c'est ça l'objectif, parce que ça convient. Parce que c'est en harmonie les uns avec les autres, avec la sainte doctrine enseignée par les apôtres. En fait, si vous regardez le verset 2 du même chapitre, c'est avec ça qu'il ouvre la discussion. Il dit « Je vous loue de ce que vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Mais là donc, il y a un sujet, il dit, est-ce que ce que vous faites ici est en harmonie avec mes instructions, est convenable avec ce que vous avez reçu de moi, est approprié, est en harmonie avec mes instructions telles que je vous les ai données. Donc, ça c'est l'objectif, on veut être convenable en harmonie. Et l'impératif, c'est quoi? Quel est l'impératif dans ce verset? Jugez-en vous-même. C'est un impératif actif, présent. Donc ça, c'est l'exercice, ça c'est l'activité, ça c'est le travail que le Saint-Esprit nous appelle à faire. Pour trouver ce qui est convenable, ce qui est bienséant, ce qui est harmonieux dans tous les choix de la vie, que ce soit mon comportement, que ce soit mes paroles, que ce soit la jupe au magasin, enfin tous les domaines qu'on vient de mentionner, l'activité à laquelle le Saint-Esprit m'appelle est de quoi? Vous dites-le, c'est de quoi? Jugez en vous-même. Si cette blague est convenable, si ce choix est convenable, si cette attitude est convenable, eh bien c'est vous. Jugez-en vous-même. Donc non seulement nous ne pouvons pas nous empêcher de le faire, mais nous sommes ordonnés, nous sommes commandés de faire des jugements en nous-mêmes concernant le bien fondé de certains comportements ou certaines pratiques. Et en l'occurrence ici c'est dans le culte, ça part du culte, la réunion. Vous voyez, ces mots juger et convenable. Le mot juger, on va en parler plus tard, mais ça peut signifier sélectionner, préférer, porter un jugement sur quelque chose. Et notez ici que le jugement, les opinions que nous sommes appelés à faire ne sont pas pour dire qu'une chose est bonne ou mauvaise. Paul ne semble pas parler à ce niveau dans ce verset. Mais si c'est convenable ou non, si c'est bien séant ou non pour le culte. En outre, ces appels de jugement sont basés sur la prise en compte de différents facteurs. Et nous allons parler de ça plus demain. Quels sont ces facteurs divers sur lesquels Paul appelle à fonder leurs opinions? Mais je veux simplement noter que dans ce contexte, ils n'ont pas qu'à faire avec la révélation divine, c'est-à-dire, ils n'ont pas qu'à faire avec la Bible. Les facteurs duquel Paul parle ici portent principalement sur la nature de l'homme et de la femme. Et puis regardez le verset 14 dans ce même chapitre. Qu'est-ce qu'il dit d'abord là? La nature elle-même ne vous enseigne pas quelque chose. Il y a des choses à apprendre même de la nature de ce qu'est l'homme et la femme pour trouver ce qui est convenable au culte. Par conséquent, pour juger de ce qui est bon ou convenable, je vous rappelle que la racine de ce mot veut dire respectueuse, magnifique. Nous ne pouvons pas nous limiter à ce qui est révélé explicitement dans l'Écriture. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas dire bon, si la Bible en parle, j'obéis, mais sinon je m'en fiche. On ne peut pas dire ça. Et il y a tout un segment du christianisme qui va dire exactement cela. Mais les Écritures doivent guider et régner sur tous les facteurs. Cependant, nous devons, selon ce contexte, en 1 Corinthiens 11, prendre en compte la nature et les rôles des hommes et de la femme, ainsi que tout ce que nous pouvons apprendre de la nature elle-même. Paul dit que la création même a une incidence directe sur l'adoration dans le Nouveau Testament. La façon dont Dieu a créé l'homme et la femme façonne même nos réunions et comment nous devons nous habiller le style de nos cheveux même. Il en parle ici. Donc, s'il nous est ordonné de faire preuve d'un jugement concernant ces éléments du culte public, il est évident que nous devons faire la même chose avec d'autres éléments du culte public. C'est-à-dire tous les éléments dans un culte. Qu'est-ce qu'on fait le dimanche? Chaque élément, on doit dire, est-ce que c'est bien séant? Est-ce que c'est convenable? Pas simplement, est-ce que la Bible en parle, sinon on fait ce qu'on veut. Parce qu'il y a des choses qui seront, la nature elle-même pourrait nous enseigner, qui ne sont pas convenables au culte. Donc voici la question à poser au sujet de n'importe quel élément du culte public. Ayant fouillé les Écritures, ayant pris en compte tous les éléments divers, c'est-à-dire ayant étudié l'enseignement des apôtres, Est-ce que je peux juger que cet élément du culte est convenable et bienséant à la révélation divine? Est-ce qu'elle est en harmonie avec ce que les apôtres enseignaient, tous ces autres facteurs? Est-ce que le Seigneur désire que cette même harmonisation, où toutes les parties conviennent les unes aux autres, soit reflétée même dans l'Église? Il dit, jugez-en vous-même, est-ce qu'il est convenable de faire ainsi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire juger? Donc, j'ai ici, j'ai déjà parlé de ça, juger dans ces deux, sélectionner, préférer, prendre un jugement. Et puis nous voyons ceci, que la Bible est avant tout le récit de la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour l'homme en Jésus-Christ. Elle est donc l'auto-révélation de Dieu. Là, j'ai cette paragraphe dans ce que je vous ai donné. Vous verrez ça demain. Quand vous ouvrez la Bible, vous dites, qu'est-ce que c'est? Avant tout, la Bible est la révélation de Dieu. Dans un deuxième temps, la Bible révèle la volonté de Dieu à l'homme. Ce faisant, elle nous demande de prendre la révélation qu'elle nous donne et de l'appliquer à tous les domaines de nos vies par le biais d'un processus qu'elle dénomme le discernement. C'est-à-dire, la Bible révèle Dieu, mais aussi nous savons de 2 Timothée 3 que la Bible est donc profitable à l'homme. Elle révèle la volonté de Dieu à l'homme. Et elle nous demande de prendre la Bible et de l'appliquer à tous les domaines de la vie. Et ça, c'est le processus qu'on a ici qui s'appelle le discernement. Le discernement. Et un verset qui sera clé pour cette idée de discernement est dans Philippiens 1, 9 et 10. Et c'est une prière que Paul prie pour les Philippiens. Est-ce que quelqu'un peut lire ce qui est ici sur l'écran?
Ce que je demande dans les prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures.
Voilà. Donc pour le discernement des choses les meilleures. Alors, je vais introduire un peu, et on ne va pas aller beaucoup plus loin ce soir, mais je veux introduire cette idée de discernement. Qu'est-ce que c'est le discernement selon la Bible? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ce mot dans la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot dans la Bible? Et on peut regarder dans les lexiques, on peut regarder ailleurs dans la Bible où c'est utilisé. Qu'est-ce que c'est que de discerner? C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est que de discerner? Le mot biblique traduit discernement. Pardon? Le mot traduit discernement décrit l'action d'examiner soigneusement quelque chose afin de déterminer son authenticité. Alors, c'est très important. Et il y a deux éléments ici. Est-ce que vous voyez les deux éléments ici? Il y a d'abord une action de faire quoi? D'examiner, mais qui va aboutir dans une évaluation, une détermination. Donc, quels sont les deux éléments? Je vous donne les deux éléments dans ce mot discernement. D'abord, le premier élément, c'est un examen et un test. Et dans la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, ce même mot est souvent utilisé de Dieu qui sonde les cœurs. Vous voyez, hein, vous dites, Dieu sonde moi. C'est ce mot traduit discerner. Discerner. Sonde, il y a un test qu'il fait. Donc, quand on parle de discernement, il faut faire un test. Faire une évaluation. Il faut faire un test. qui aboutit donc deuxièmement, deuxième élément, à une évaluation. Dans la première partie, donc, c'est un test ou un examen et une évaluation. Un examen et une évaluation, un jugement, une estimation de la chose basée sur l'examen. Donc, à l'école ou à l'université, on dit je vais passer un examen. Ça, c'est le test. La note que vous recevez à la fin, ça, c'est l'appréciation du professeur. Ça, c'est l'évaluation qu'on vous a donnée. Et ce n'est pas toujours la même chose. Tout le monde peut faire le même test, on ne peut pas recevoir forcément la même évaluation. Mais dans ce mot discerner, on a les deux. On discerne, on fait un test pour après donner un résultat. Je conclue donc que vous avez réussi, vous avez raté. Et dans le Nouveau Testament, on voit que ce mot est utilisé donc avec cette idée. Par exemple, 1 Timothée 3,10 dit des diacres qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Et éprouve doit forcément dire plus que tester. Bon, les tests, il a raté, mais bon, il devient quand même diacre. Il y a un problème là. Hein, il y a cette idée qu'on les a éprouvés pour les approuver. Éprouver pour approuver. Donc il est évident que l'épreuve doit conduire à un certain jugement. Juge donc qu'ils sont dignes d'être diacres. Et c'est pour cela donc que le mot est même traduit dans le Nouveau Testament en français approuver. Ce même mot est traduit parfois approuver. En Romains 14, 22, en 1 Corinthiens 16, je vais vous lire, ne regardez pas, je vais vous lire 1 Corinthiens 16, 3. Quand je serai venu, j'enverrai avec les lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem les personnes que vous aurez testées. Vous savez comment le Nouveau Testament le traduit ? Que vous aurez approuvé. Parce que dans l'idée de tester, il y a impliqué cette idée qu'ils seront approuvés par vous. Ils seront testés et puis approuvés par l'Église. C'est le mot juger et discerner. Les personnes que vous aurez jugées et discernées et trouvées que, bon, on peut leur faire confiance. L'implication est que ça conduit à une évaluation positive, donc c'est traduit approuvé. Donc ces idées jumelles-là, d'évaluation et d'estimation, se voient dans ce que l'homme, par exemple, fait avec une paire de bœufs pour savoir si elle sera utile. En Luc 14, verset 19, Jésus parle et donne une parabole et il dit, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Qu'est-ce qu'on fait quand on essaye une paire de bœufs? On veut savoir si c'est une bonne paire de bœufs. Donc c'est tester pour approuver. Ailleurs, Jésus dit en Luc 12, 56, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? C'est-à-dire, vous discernez le ciel, vous regardez et vous tirez une conclusion qui va faire bon demain. Il ne va pas faire bon demain. Donc il y a cet examen et cette évaluation. C'est un peu comme le mot français évaluation, parce qu'elle contient ces deux idées. Une évaluation à l'école comprend un examen, un test, et puis une estimation ou une note d'appréciation qui est donnée par la maîtresse. Donc, voici ce que la Bible nous appelle à faire. Examiner, sonder, afin de pouvoir évaluer d'une manière juste et biblique. Examiner pour pouvoir évaluer. Examiner pour pouvoir évaluer. Parce qu'on a ces deux œufs-là. Examiner pour pouvoir évaluer. Et c'est là, je crois, que je vais m'arrêter ce soir parce qu'il fait déjà tard. Nous allons revenir et nous allons parler quand et quoi discerner. Quel est nécessaire pour pouvoir bien discerner. Et puis, quels sont les facteurs aussi qu'il faut prendre en compte quand nous voulons discerner quelque chose. Mais au moins, si on peut déjà commencer demain matin, et nous sommes tous d'accord que discerner, c'est examiner pour évaluer. Et le Saint-Esprit nous appelle à le faire dans tous les domaines de la vie. On ne peut pas dire, je ne sais pas, c'est neutre. Non, il n'y a rien qui est neutre. Tout doit être examiné et tout doit être évalué. Il faut savoir, le faire. Donc, où est-ce que nous allons, juste pour donner la feuille de route, si vous voulez, demain matin, je vais finir donc cet enseignement sur la doctrine du discernement. Et puis, on aura donc encore deux messages après. Et ce que j'aimerais faire donc demain soir, c'est de prendre cette idée de discernement et de l'appliquer au ministère, à l'Église. Comment discerner dans les Églises ? Il y a beaucoup d'Églises. Donc, comment prendre cette doctrine de discernement ? Et nous allons voir les chapitres, surtout le chapitre 12, mais 12, 13 et 14 d'un Corinthiens. Et puis vendredi matin, nous allons prendre cette même doctrine de discernement et on va l'appliquer donc à la vie personnelle. Comment discerner dans mes choix personnels? Et ce sera un survol d'un Corinthiens 9, 10 et 11, qui sont des chapitres qui parlent de la liberté chrétienne. Donc, qu'est-ce que la Bible enseigne concernant le discernement de mes choix personnels? Donc, réfléchissez à cette idée. Si vous pouvez, je vous encourage de lire pour le jour 1, demain matin, ce sera un petit peu une répétition des choses que nous avons vues. Mais on sera dans bien unis dans nos pensées pour pouvoir recommencer demain matin. Nous prions le Seigneur et je vous donne la parole à Père. Seigneur, merci.